Présentation, j'ai envie qu'on prenne la direction, mais je ne sais pas où elle est d'ailleurs cette direction, si on s'intéresse au bureau cosmique. Oui, c'est à vous que je parle, Adrien Jacquet. Il va falloir que vous nous définissiez ce que recouvre ce nom évocateur, peut-être un petit peu mystérieux. Investir le temps du projet, c'est ce dont vous allez nous parler. Le bureau cosmique, c'est une association pluridisciplinaire. Je vous connais un petit peu par rapport à ce que vous avez développé, notamment au sein de l'hôtel à projet Pasteur, qui sera, je crois, présenté à l'issue de cette journée ici à Rennes, mais vous allez en parler beaucoup mieux que je ne saurais le faire, donc je vous laisse la parole et puis on se retrouve ensuite pour le débat.
Donc merci déjà de nous avoir invités. Et donc on est un collectif d'architectes constructeurs, donc constitué de quatre architectes, enfin de trois architectes, un scénographe et un charpentier. Et du coup, ça fait maintenant 3 ans qu'on a monté notre collectif. On l'a monté quand on était encore étudiant à l'école d'architecture de Rennes.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui.
Quand on était encore étudiant à l'école d'architecture, donc à Rennes, avec pour volonté d'intervenir sur l'espace public. Donc on a cherché des moyens, par empirisme, d'intervenir au mieux sur des espaces qui nous semblaient, en tout cas, soit pas traités, soit traités d'une manière qui n'était pas celle qu'on attendait, soit par des demandes aussi des usagers qui venaient nous chercher pour proposer des solutions d'aménagement. Donc, je trouve qu'on a eu une très bonne introduction de Mathieu sur un peu le...
Non, c'est Benjamin, mais c'est pas grave.
Pardon. Désolé, Benjamin. Sur, justement, sur la démarche un peu de collectif, un petit peu comme le nôtre, et sur la dynamique qui peut être mise en place. Donc, moi, j'aimerais plus mettre l'accent un peu sur l'image et vous montrer un peu ce que concrètement sur le terrain, ce à quoi ça peut ressembler, est-ce qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc bon, ça c'est notre équipe, je vous disais, donc constituée. Alors on essaye d'être pluridisciplinaire et d'intégrer aussi parfois des scénographes, des artistes, mais des paysagistes, en fait, le plus de...
C'est pour ça que je disais pluridisciplinaire en vous présentant, parce que j'avais effectivement en tête ces multiples compétences que vous réunissez au sein du collectif.
C'est ça, mais en fait, du coup, c'est une manière aussi de se rappeler que la ville, en fait, et la manière de réfléchir sur la ville, ça a différents champs d'intervention et tous les acteurs peuvent être mis à contribution. Donc ça, c'est une photo. Alors bon, ça, c'était un petit texte de présentation sur notre fonctionnement et notre rapport à l'architecture et à la ville. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'être toujours sur le contexte et d'avoir un rapport très lié au terrain. Donc ça, on le verra même de par notre pratique de constructeur. En fait, c'est toujours de trouver les acteurs en place, même en termes de matériaux, mais de dynamique, d'énergie qui peuvent être en place, et de vraiment réussir à transformer ça dans chaque lieu, en fait, et que chaque lieu apporte sa propre complémentarité. Donc je vais commencer par un projet que à Rennes Métropole, enfin vous connaissez, c'est le projet de la vallée de la Vilaine.
Donc tout le monde ne le connaît pas forcément et c'est important
que vous le connaissez pas, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer un petit peu. Et donc c'est un projet d'aménagement sur donc la vallée de la Vilaine qui court de Rennes jusque Laillé. Et donc, un projet. Donc,
ça tombe bien, dans le même numéro de Place Publique, on en parlait aussi. Donc là, vous avez à la fois les temps et puis le projet d'aménagement. Formidable. Placement produit. Je vous redonne la parole.
Donc, un projet qui a été remporté par l'agence Terre, donc une agence parisienne de paysage et d'urbanisme. Et du coup, notre rôle dans ce projet, nous, ça a été rapidement de créer le lien, en fait, entre le projet d'aménagement et le terrain. Donc, l'idée, c'est, je vais tout de suite montrer une photo du terrain, à proprement dit, c'est à la fois de préfigurer les itinéraires et les cheminements mis en place dans le projet d'aménagement, donc tracés sur le plan guide de ce projet. Donc l'idée, c'est à la fois de les tester tous les ans avec les acteurs du terrain, que ce soit des habitants, des acteurs associatifs, professionnels, de tester les différents cheminements, et aussi, du coup, de réussir à remonter les informations et à faire évoluer le plan guide en fonction. Donc le rapport, parce que notre rapport au temps, justement, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on peut revenir en arrière régulièrement. Donc toujours de pouvoir interagir et prouver par l'action une méthode, mais ensuite de pouvoir parler d'incrémentalisme tout à l'heure, mais c'est toujours ça. c'est comment on arrive à revenir en arrière et à tester rapidement différentes méthodes. Là, par exemple, on voit à droite une signalétique en fait, qui a été pour ce projet-là, qui a été mise en place. Donc, sur le terrain, l'idée, c'est de travailler, par exemple, on recherchait comment on pouvait amener une nouvelle signalétique sur ce projet. Et l'idée, c'est d'arriver à tout de suite tester rapidement avec du coup les communes et les acteurs en place différents systèmes et de voir ensuite dans le plan d'aménagement si effectivement on va garder ce type de projet parce que c'est quelque chose qui évolue comme éphémère mais qui est construit pour durer aussi. Donc en fait, on peut être capable de... On surdimensionne pas mal nos projets parce qu'on sait que tout le temps, on nous met dans une catégorie d'éphémère. Mais c'est très dur à démonter en général. Donc ça peut rester en place longtemps aussi. Donc à gauche, on voit c'est un système de treille qui servait à traverser, en fait, qui peut préfigurer une traversée à un endroit sur la Seiche, donc à un cours d'eau à côté de Rennes.
J'ai testé ça, ça fonctionne très bien.
Et donc voilà. Ensuite, ça, c'est justement sur un peu la médiation et la manière dont on va diffuser le projet sur le terrain. Donc, on voit là, les plus observateurs ont peut-être vu dans le hall de Rennes Métropole que la fresque que vous voyez derrière, qui est la même qui était sur les étangs d'Apinier, donc qui est une future base nautique à côté de Rennes. Et on voit en gros que l'exposition et tous les temps de travaux sur le projet se déplaçaient directement sur le site. Donc, avec à la fois l'intégration de tous les locaux, les habitants, mais les différents professionnels aussi qui viennent sur place pour parler du projet et en fait faire évoluer. Donc ça c'est un autre exemple de diffusion du projet, mais qui sont toujours des tests. Et avec une image aussi sur quand je vous parlais d'itinéraires et de tests en fait sur ces itinéraires, on organisait justement des randonnées, donc à chaque fois sur les différents secteurs, où on teste des parties du terrain qui vont être aménagées, mais d'autres aussi qui ne le seront peut-être pas. Et du coup, on peut faire remonter cette information pour faire évoluer le tracé du futur projet. Avec, ça sous-entend aussi des aménagements, là pour le coup, qui sont vraiment plus temporaires, donc sur des par exemple un ancien ponton, où on vient rapidement, pour le temps d'une soirée, tester par exemple ce que ça peut être de passer, là c'était pour la construction d'un bivouac, et on passait une nuit sur le projet, parce que l'idée à terme, c'est quand même de pouvoir dormir sur la vallée de la Vilaine, en tout cas de créer des lieux pour ça. Il en existe déjà, mais en tout cas pas réellement intégré à la vallée. Et donc voilà, c'est comment on peut passer une nuit, par exemple, au bord de la Vilaine. Là, c'est un peu austère, parce que c'était encore en travaux, mais c'était la préfiguration d'une partie du camp qui était à côté de ce qu'on peut voir. Avec aussi, à chaque fois, on teste aussi des outils, en fait, des outils de traversée. Donc, tout à l'heure, on a vu un mode pédestre, mais on peut aussi avoir, par des acteurs locaux ou par des constructions, parfois, on crée des propres moyens de locomotion qui vont nourrir le projet, en fait, et en fonction des expériences et des acteurs qu'on va rencontrer, qui vont faire avancer le projet. Donc là, je vais vous montrer un autre projet qui est le projet des Capucins à Brest, qui est après la réhabilitation de la halle des Capucins, donc sur le plateau des Capucins à Brest. Et en gros, ceux qui connaissent le 104 à Paris, on peut faire un parallèle parce que c'est quasiment la même démarche. C'est dans un bâtiment public. L'idée, c'est de recréer tout un espace public, donc qui est dans le. Je vais vous montrer peut-être rapidement une. Ça, c'est des exemples de construction qu'on a réalisé, l'atelier. Mais voilà, bon, ça, c'est la halle des Capucins, donc en chantier. Et alors, l'idée, là, c'est assez intéressant en termes d'aménagement, parce que, en gros, il n'y avait plus rien dans la halle. Et l'idée, c'était quand même d'arriver à recréer du mobilier pour pouvoir habiter la halle. Donc, ne serait-ce que des bancs, des tables, des bureaux, pas mal de choses. Et donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de séparer le projet en 2 ans. Déjà, de se dire, on crée dans un premier temps du mobilier qui va nous permettre en fait la rencontre et l'échange avec les habitants et les acteurs de Brest qui vont s'impliquer dans ce projet-là. Et du coup, de pouvoir ensuite grâce à déjà ce mobilier, cette première activation en fait du lieu, déjà ça crée une histoire du lieu et de son habitation. Ensuite, de pouvoir dessiner avec eux, avec les gens qui seront impliqués, la suite. Donc, ils seront plus des modules d'observation et des choses un petit peu moins terre à terre que justement là bon, ça c'est des bureaux par exemple. Tout est mobile aussi parce que quand on voit la dimension de la halle, il y a aussi cette idée de pouvoir que chacun puisse, chaque association ou chaque particulier puisse vraiment s'approprier le mobilier et inventer son histoire ou travailler comme bon lui semble. Là, on voit des gradins qui sont mobiles en fait, parce que là on n'avait pas mis les roues, mais bon, l'idée c'est pareil, c'est de pouvoir, une asso qui voudrait projeter quelque chose, tester un endroit du lieu, c'est possible. On peut le sortir dehors, il peut être réutilisé. Et là, c'est du coup une première partie de la livraison avec un module d'activation fixe du coup dans la halle qui accueille pas mal d'associations. Alors, je vais essayer d'être rapide. Rapidement, deux autres choses qui sont. Ça, c'est le premier projet à Rennes. C'était intéressant parce que c'est dans le cadre du projet de l'aménagement de la Courrouze. Où en fait on est intervenu dans une ancienne friche qui était dans une friche militaire qui s'appelait les cartoucheries, et donc il n'y avait pas ni de programme ni d'idée ni enfin il y avait rien sur ce lieu. Donc nous on est arrivé, on a vraiment habité l'endroit pendant plusieurs mois, et avec les gens qu'on rencontrait du coup du quartier de la Courrouze et aussi du quartier de Clenay adjacent, on a défini ce qui allait devenir ce qui était un espace à la base temporaire mais qui est toujours en place. Ce qui allait devenir un nouvel espace public, en fait, créé ex nihilo, mais quasiment sans commande, avec quand même le soutien de territoire, mais qui lançait, je pense qu'ils prenaient un certain risque en nous disant.
Qui est l'aménageur public s'occupe de la Courrouze, je le précise pour les non-rennais qui sont parmi nous.
Et du coup, après ce lieu, nous, on le gérait nous-mêmes pendant un certain temps. Donc là, on voit par.
Oui, ça a l'air sympa.
Il y a certains festivals qui se sont greffés à ce lieu-là, mais aussi beaucoup d'associations de quartier, beaucoup de choses. Et en fait, avant même la reprise par la ville de cet endroit, il y avait déjà une histoire, en fait. En un an, on ne pouvait plus raser ce qui s'était passé. Ou alors, il fallait prendre en compte vraiment cette histoire-là et du coup, être capable de reproposer un projet. Du coup, pour l'instant, le projet est resté comme ça, avec quelques aménagements de la ville, donc qui est devenu un espace public.
On comprend pourquoi il y a un charpentier dans l'équipe, hein, quand même.
Il y a beaucoup de bois.
Le bois est au cœur du projet.
Parce que le bois, c'est aussi, on travaille avec des matériaux locaux et donc on essaye de. Et alors, juste un dernier petit projet là qui s'appelle la cantine, qui est toujours à Rennes, qui est sur le quartier de Morpa. Et en fait, l'idée, c'était juste d'accompagner une. Parce que ce quartier est en mutation.
C'est au Gast, c'est ça ?
Ouais, place du Gast. Donc avec une grosse restructuration, donc beaucoup de démolitions et la construction de nouveaux logements et de nouveaux équipements à proximité. Sauf que rien n'était prévu ni pour gérer la transition, ni pour accompagner en fait les futures constructions.
C'est votre maison du projet à vous, ça, finalement, d'une certaine manière, à l'échelle de ce quartier.
En tout cas, c'est là, en fait, le projet qu'on voit, il est tronqué à 90% dans son budget. Donc, c'est le résidu de ce qui aurait dû être. Normalement, c'était 10 fois plus ambitieux. Ça devait être la maison du projet aussi. Ça devait aussi être, avec les promoteurs privés qu'on avait rencontrés, donc la cantine pour les compagnons qui venaient travailler sur le quartier.
D'où le don. Ouais.
Voilà, oui, à la base. Et mais finalement, même s'ils ne nous ont pas soutenus, ça l'est quand même devenu. Donc, c'était assez drôle parce que du coup... les gens se la sont vraiment appropriés. Tous les gens venaient manger le midi. Enfin, en tout cas, c'était quand le temps le permettait. Mais
vous en parlez au passé parce que c'est terminé cette aventure-là ?
Non, c'est toujours en place, c'est une question de temps pour. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre même un promoteur privé. Je veux dire que ce genre d'élément, en fait, il peut tout à fait accompagner le projet et qu'il est beaucoup plus valorisant même qu'un Algeco. En fait, on peut juste. Et déjà pour les gens qui travaillent et pour le public, le public sur place, parce que déjà ça.
En tout cas, il interpelle. On vous pose des questions, ça suscite le dialogue et la rencontre un lieu comme celui-là.
Oui, oui. Surtout qu'aussi, il faut dire qu'on en a rajouté un peu parce qu'au départ,
on vous reconnaît bien là.
Ça devait être un lieu où il y avait une personne qui voulait le prendre en charge et il y avait même un emploi qui devait être créé autour de la restauration et ça devait être un vrai lieu de restauration. Vu que le budget n'était plus à la hauteur de ce projet, il devait y avoir des micro-ondes, mais là c'était le seul élément qu'on pouvait encore acheter, donc on l'a mis sur une stèle et on en a rajouté en disant, vous voyez, voilà, il va rester, je crois qu'on voit sur une autre photo, mais, il va rester un micro-ondes. Mais ce micro-ondes aussi, ce qui est intéressant, c'est en question de temps aussi, c'est que quand on met notre plat dedans, il y a une boule à facettes qu'on devine au-dessus et des projecteurs. Et en fait, du coup, ça a déclenché une musique et la boule à facettes. Et en fait, l'objet...
Bureau cosmique, on vous a dit. Hein, voilà, tout non, est dans le titre.
Ce qui est drôle, c'est que du coup, toute la journée, on avait un flux des compagnons qui venaient là ou des mères qui accompagnaient leurs enfants à l'école. Et la nuit, du coup, il y avait tous les jeunes qui étaient autour et du coup, qui continuaient à utiliser le lieu. En fait. Donc, c'était... On parlait tout à l'heure de gestion du temps, justement, dans des projets. À cette échelle-là, c'est assez drôle.
C'est la version poétique des objets connectés, hein, c'est ça, le micro-ondes qui fait de la musique.
Voilà. Bon. Et donc ça, c'est un projet qu'on a fait à Bordeaux et à Bray, voilà, et à Rennes aussi. Et qui est aussi juste un exemple un peu d'appropriation de l'espace public en montant des structures, là, pour le coup, qui sont vraiment éphémères, mais qui permettent de tester à la fois des usages toujours et de pouvoir rencontrer des acteurs et de voir qui est susceptible de s'investir ou non dans des nouveaux lieux. Quoi.
Merci Adrien. Merci Adrien Jacquet. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous nous dites et les photos que vous projetez le montrent bien, c'est que vos réalisations sont habitées. À chaque fois, il y a du monde, là encore sur cette photo, sur toutes les précédentes, il y a des gens, il y a des utilisateurs, il y a des usagers, il y a de la rencontre. C'est ça un petit peu qui caractérise les propositions qui sont les vôtres.
Oui, tout à fait, parce que pour nous, même si là, je montre ça, même on un petit peu à la légère, mais on parle quand même pas mal d'architecture et d'urbanisme et de la manière dont on investit la ville, mais on essaye toujours de prendre des biais qui vont être un peu plus légers, d'inviter des gens en fait qui parfois ne viendraient pas. Donc on fait même beaucoup de choses autour de la restauration. On invite des cuisiniers, on a des prétextes en fait à chaque fois et des temps forts pour pouvoir parler d'aménagement et parler de projets qu'on peut monter et mettre en place. Donc, mais oui, et ça sous-entend forcément un maximum d'utilisation et d'usage. Et ça démontre aussi parfois dans des quartiers même comme Maurepas que justement des gens peuvent se mobiliser et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans des endroits qui peuvent être délaissés parfois. Quoi.
Voilà, qui est un quartier, alors je précise aussi pour les non-rennais d'entre eux qui sont parmi vous, c'est un quartier populaire qui a connu pas mal de difficultés, issu des années 60, hein, les grands ensembles qu'on connaît.
Voilà. C'est ça.
Oui, vous souhaitiez réagir ou poser des questions, vous aussi dans la salle sûrement.
Oui, j'ai une question. Comment vous réussissez à trouver les financements, sachant que ça veut dire que Rennes soutient bien ce type d'opération et que c'est en effet une question de choix, puisqu'à Bordeaux, a priori, ce n'est pas du tout la politique qui est menée.
J'ai parlé que des bassins à flots.
Des bassins à flots.
C'est... On n'est pas tant soutenu que ça par qui que ce soit. Il faut que ce soit clair. Mais il y a une certaine écoute. En tout cas, il y a des projets où on peut plus développer, comme le projet de la vallée de la Vilaine, où là, effectivement, on sent qu'il y a une vraie volonté de vouloir faire évoluer le projet et de vouloir intervenir différemment. Donc ça, c'est assez enrichissant, mais c'est pas le cas pour tous les projets. C'est pas toujours évident.
Il y a une approche un peu pirate et en même temps sacrément structurée dans les travaux qui sont les vôtres. Et c'est ça qui les rend totalement crédibles, du coup. Parce qu'au départ, les propositions formulées peuvent être un peu surprenantes, décalées, vous l'avez dit. Et puis, quand on commence à s'y intéresser, à creuser, à regarder, là, on s'aperçoit de toute la cohérence du projet dans sa durée. Et ça le rend vraiment, je trouve, intéressant. Voilà, je referme la parenthèse. Vous aviez envie de réagir aussi, Benjamin. Et vous n'avez plus de micro, mais s'il arrive, voilà. Si on pouvait... Celui-là, il ne fonctionne vraiment plus.
Ouais, je sais pas. Non, c'est... Alors du coup, moi, c'est... Quelque part, c'est un peu pour pousser un coup de gueule, en fait, par rapport à ça. C'est des choses que je suis depuis longtemps. Cet urbanisme temporaire, participatif, éphémère, etc. C'est que voilà, on a des étoiles dans les yeux. On se dit, waouh, c'est vachement innovant, c'est collaboratif, etc.
Vous n'y croyez pas ?
J'y crois, mais il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, disons-le tout net, vous n'êtes pas payé pour votre métier. Vous n'êtes pas payé pour votre métier. Vous dormez sur place, vous investissez des heures et des heures, vous créez de l'innovation, vous créez, oui, du marketing et de la communication aussi pour les villes qui s'enorgueillissent de ce type d'urbanisme. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ces collectifs, ces anciens étudiants, et vous avez commencé en étant étudiant, ces jeunes, demain, et j'en connais, notamment certains du collectif ETC, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Voilà, une fois que vous avez une vie familiale, des enfants, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de gagner votre vie peut-être de manière un peu plus linéaire et un peu moins cyclotimique, je vais dire. Voilà, ayons quand même conscience de ça. Je voulais juste dire ça, ayons quand même conscience de ça. C'est des gens qui donnent énormément de temps.
Ce sont des militants.
Il y a une dimension.
C'est du militantisme.
C'est du militantisme. C'est du militantisme, mais le militantisme, alors, ça se fait de manière totalement bénévole. Je ne sais pas. Je pose la question.
Le débat est lancé.
Je pose la question. Oui,
j'ai eu le même débat à Urbanisme Temporaire où je suis allée au pavillon de l'Arsenal il y a deux semaines et où M. Missika, M. Braouzek,
Enorgueillé, ouais. Enfin, ils étaient fiers d'eux, quoi.
Ouais, c'était vraiment les grands voisins, c'était la vitrine, Soup Machine qui donnait du temps, de l'argent pour rénover des lieux. Et je suis allée les voir tous à la fin en leur demandant comment ils se payaient, s'ils arrivaient à vivre. Tous, soit ils sont bénévoles, soit ils sont au SMIC. Et même le directeur de grands voisins, qui est quand même quelqu'un qui depuis quelques années, fait Yes We Camp, etc. Donc oui, c'est du militantisme, mais à un moment donné, on ne peut pas dire c'est la vitrine et tous les pays du monde viennent voir et ça crée plein de...
Il faudrait trouver un modèle économique, finalement,
oui,
pour ce projet.
Il y a quelque chose qui ne va pas, je suis tout à fait d'accord.
Adrien, Jacques, qu'est-ce que vous pouvez apporter, justement, comme élément de compréhension à ce qui vient d'être décrit comme étant peut-être une limite de votre organisation ?
Ouais, enfin pour moi c'est pas une limite parce que quand on ça marche.
Ça fonctionne, mais parlez tout près, merci.
Sur un projet d'aménagement, quand on voit le prix, je sais pas, d'un lampadaire par exemple, et ben ça peut être une opération d'une semaine, enfin une construction comme la cantine quoi, qui coûte là du coup qui coûte 10 000 euros, voilà, 10 000 euros. C'est quoi 10 000 euros? C'est 30 mètres de granit sur un trottoir. Donc voilà, en fait, je pense que c'est juste qu'il faut faire
évoluer. Question de choix, c'est ça, hiérarchie des choix.
Bah, y a une question de choix, oui, et pour repenser peut-être à l'usage et de le mettre au centre des préoccupations, parce que l'argent, il est là, même si oui, peut-être qu'il y en a de moins en moins. On est tous d'accord, on l'entend tous les jours dans les médias, mais il y a une question de gestion aussi et de mise en place de certaines énergies qui, pour moi et pour beaucoup, est encore un petit peu...
Quand vous vous projetez au bureau cosmique avec l'équipe que vous venez de nous présenter, vous voyez continuer longtemps comme ça ou est-ce que vous sentez l'obligation peut-être de trouver un nouveau modèle ou une nouvelle organisation ?
Non, mais nous on continue et on est de plus en plus sollicités, même au Danemark, on travaille pas mal à Paris aussi maintenant. Donc
ça roule ?
Oui, ça va, ça va, ça pourrait être mieux, mais oui, ça va.
Voilà, bon, en tout cas, ils sont dans la salle. Si vous avez besoin de les contacter, Adrien Jacquet peut vous renseigner. Je vois Jean-Luc Godin qui souhaite s'exprimer. Allez-y.
Donc Jean-Luc Godin, vice-président à Rennes Métropole en charge de l'aménagement du projet de Villa Naval et président de territoire. Je pense qu'effectivement, le modèle économique est à repenser parce que nous découvrons là aussi un nouveau mode de faire. Nous en découvrons aussi toutes les vertus, tous les intérêts. Et dans ce que l'on appelle nos études d'urbanisme, eh bien, ça fait pleinement partie de la même manière que le positionnement d'un sociologue dans les études préopérationnelles et dans les études qui conduisent à l'aménagement. C'est-à-dire que dans les équipes que l'on peut choisir aussi pour cet urbanisme-là, eh bien, ce sont des équipes un peu plus complètes que ce que l'on avait auparavant, avec un aménagement en dur. Alors, le projet de la vallée de la Vilaine est un petit peu atypique aussi parce que ce n'est pas un aménagement très invasif. C'est plus une mise en valeur d'un territoire, une redécouverte de territoire. Néanmoins, la méthode est intéressante, elle est importante. Et on voit tout le bénéfice de ce travail aussi auprès de la population pour que cette même population s'accapare son propre territoire et en devienne l'acteur ensuite. Parce qu'au bout du bout, c'est qu'il faut que l'on enlève un petit peu les roulettes du vélo et que tout le monde fonctionne sans qu'il y ait besoin d'un apport d'une tierce personne ou d'une tierce activité. Donc effectivement, et là je rejoins le propos quant au coût des études, il faut aussi relativiser. Je pense que voilà, il y a sans doute la possibilité d'intégrer dès le départ cette marge-là.
Merci pour votre témoignage, Jean-Luc Godin, qu'on retrouvera d'ailleurs en conclusion de cet après-midi pour justement pour la conclusion. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me tourne vers vous de ce côté-ci, à qui je tourne un peu trop souvent le dos. Non ? S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant encore, je vous propose que l'on aille découvrir un troisième projet avec Anne Durand. Vous êtes architecte urbaniste, vous nous emmenez au Chili, hein, c'est ça ? On oui. part à Quinta Monroy.
Monroy.
Ouais, je l'ai bien dit. Quinta Monroy, c'est un exemple d'évolution, évolutivité, des logements, voilà.
Oui, j'aurais.
De la mutabilité
près,
urbaine.
Mais...
Voilà.
Mais c'est un projet, vous verrez, qui a été assez médiatisé. Donc, c'est un exemple qui se trouve dans le guide. Donc, ce projet répond à une manière de penser le temps dans le bâtiment et de penser une architecture en mouvement. Et on pourrait dire que c'est un projet mutable, qui est une notion importante, à mon avis, dans ce séminaire. On l'a mentionné à plusieurs reprises, la mutabilité. Ça fait aussi l'objet d'une thèse que j'ai faite l'année dernière. Et donc, je voudrais faire rapidement une présentation sur ce concept très rapide, car ce n'est pas une notion au hasard par rapport à réversibilité, à résilience, etc. Et je suis dans le mauvais sens.
Voilà, c'est page 100 dans le guide pratique.
C'est page 100, ok. Rapidement, je dis que c'est un projet mutable et que c'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui dans la journée, mais que face à un futur toujours incertain, une société qui change, qui évolue vite, etc., la planification ne fait plus vraiment consensus, même si ce matin, j'entendais quelqu'un dire que ça serait bien de pouvoir planifier à 30 ans. Donc ça, c'est un vrai débat. Voilà, je pense que la planification qui correspondait à une période de pleine croissance et de grande consommation, et avec l'idée dominante que le progrès serait linéaire, n'est plus vraiment d'actualité. Et aujourd'hui, peut-être qu'on fait face à de nouveaux paradigmes. C'est aussi la raison pour laquelle je pense que la question du temps prend une autre dimension. Et que la mutabilité urbaine, qui signifie mobilité, changement, c'est vraiment une position, une manière de penser la ville, et qu'elle comprend vraiment l'idée de mouvement et l'impermanence et l'élément structurant de ce terme. Et que je la définis comme la capacité des villes à accueillir les changements et à favoriser les possibles. Alors je fais toute cette introduction, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je l'ai défini comme la capacité des villes à accueillir les changements, à favoriser les possibles. Et ça signifie que j'ai défini un peu trois conditions pour remplir et pour qu'on parle réellement de mutabilité dans la ville. Donc la condition 1 serait d'accueillir le changement, et c'est-à-dire fabriquer l'espace dans une logique d'accueil. La condition 2 serait accepter l'incertitude, c'est-à-dire faire dans le temps présent, en favorisant la facilité du changement dans le futur. Il y a plein d'autres sous-conditions, mais je vais rapidement. Et la condition 3 serait de créer une collection d'inventivité, c'est-à-dire de créer une entraide et de mettre en réseau. Et donc ces trois conditions, qui peuvent être comprises à une échelle globale, à une échelle urbaine, c'est des conditions, parce que l'architecture et la ville sont intrinsèquement liées, sont des conditions qu'on retrouve dans le projet que je vais donc présenter, qui est celui de Quinta Monroy. Donc, Quinta Monroy, c'est un quartier à Iquique, au Chili, au nord de Santiago, environ 1000 km, qui se trouve en limite du désert d'Atacama. C'est une grande ville portuaire, enfin pas une grande, c'est une ville de 200 000 habitants, donc c'est pas une grande, très grande ville, assez écartée du reste du Chili. Et le Chili, comme de nombreux pays d'Amérique latine, Je connais plus particulièrement le Mexique, mais le Chili est confronté aux mêmes préoccupations et à une problématique accrue d'un manque de logement. Donc il y a un phénomène, on voit l'image, d'autoconstruction très important. Et pour faire face à ce phénomène, les États, que ce soit au Chili, au Mexique, déjà ces deux pays, ont décidé de planifier justement le logement et de construire de manière massive pour répondre au manque de logement. Et donc ça, c'est une image du Mexique et où on construit des maisons en répétition. C'est des promoteurs qui achètent du foncier pas cher en périphérie des centres-villes. Et ils ont construit 2 millions de logements en moins de 10 ans. Ça, c'est au Mexique. Au Chili, le phénomène est moins... ils ont construit de manière un peu différente, mais ils se trouvent confrontés au même problème. Et face à ça, ou parallèlement à ça, le Chili, parallèlement à la massification du logement, a mis en place un programme qui s'appelle Programa Estatal de Chile Barrio, qui est d'intervenir dans les quartiers autoconstruits, de réintégrer tout ce qui est autoconstruction pour les réintégrer dans la ville. Donc, ils définissent ça comme une récupération physique et sociale des quartiers pour les réintégrer à la ville. Donc, finalement, c'est un vrai travail de participation entre les habitants et les municipalités. Et donc le Chili, le gouvernement, a fait appel à l'agence Elemental, qui est représentée par Alejandro Aravena, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il a été nommé Pritzker l'année dernière, qu'il a été commissaire de la Biennale. Enfin, on a beaucoup entendu parler de lui cette année. Et donc en 2006, quand ce programme se met en place, il dit je propose... finalement, de reloger les familles. Donc, Quinta Monroy, c'est... Je parlais de cette diapositive. Donc, Quinta Monroy, qui est un site de 5700 m², qui est occupé depuis une trentaine d'années par une centaine de familles. En général, les familles sont expropriées. Et on construit ensuite des logements, soit de manière massive, soit de bars, etc. Donc lui, justement, il dit, on ne peut pas, le terrain est trop petit pour construire des maisons individuelles, des logements en bande. L'idée, ce n'est pas de construire une tour. Donc, au final, je vous propose à la fois de m'appuyer sur les faibles capacités financières des familles, mais aussi pouvoir avoir un habitat qui puisse évoluer avec le temps. Donc, plutôt que de construire une petite maison, comme on a vu sur la photo précédente, de 40 m², je vous propose de construire la moitié d'une maison qui puisse se multiplier par deux. Et donc, de manière générale, souvent, j'ai pu constater qu'au Mexique, c'était aussi comme ça, les maisons sont 3 mètres par 12 mètres, donc une petite superficie, environ 36 m², mais que l'idée, c'est pouvoir l'agrandir à 70 m². Donc ça veut dire que là, on voit en coupe, je ne sais pas comment ça marche, que chaque bloc, là, il comprend un vide entre chaque bloc qui peut être comblé pour que l'habitat puisse être évolutif. Donc ça, c'est le plan MAS qui, aussi, nouveauté en Amérique latine, c'est assez... Qu'on puisse penser les espaces collectifs à l'intérieur d'une opération, c'est pas chose courante. Donc là, ce qu'on verra aussi en photo, mais c'était pris en compte dans le plan MAS. Et donc, le projet, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est quand même une architecture que je dis assez rigide et répétitive, mais c'est volontaire, c'est brut de décoffrage, et c'est la base pour qu'ensuite les familles puissent, au fur et à mesure, en fonction de leurs moyens, combler le vide d'une certaine manière et agrandir leurs espaces. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une structure qui est pensée en amont pour pouvoir évoluer. Donc derrière, on voit le désert. C'est, il est très, très proche. Et la ville, elle est... Et donc ça, c'est une première évolution.
Ça, c'est quelques années plus tard, déjà.
Ou quelques mois. Oui, ou un an, deux ans plus tard. Oui, ouais. C'est pas très long. Parce que de toute façon, l'opération date de 2006. Et qu'en 2010, tout était déjà comblé. Donc ça, c'est les intérieurs où on livrait en effet brut avec parpaing et bois. Ensuite, les gens l'agrémentent comme ils veulent. Ils rajoutent des arrondis au niveau des poutres. Enfin bon. Et tout ce projet a pu être aussi possible parce que, grâce à des ateliers participatifs qui permettent de sensibiliser aussi les familles à savoir comment on poursuit le travail qui était comment on poursuit cette architecture qui est vide, comment on peut penser l'espace futur avec une base. Donc ça, c'est une première donnée qui était très importante, les ateliers participatifs. Et donc oui, je termine en disant que finalement c'est un projet où espace et temps sont très liés. Et si c'était à reproduire, parce que c'était un peu la question, et un peu la question du guide aussi, si les exemples qu'on présente, qu'est-ce qu'on peut en faire par la suite. Donc, moi, je définis que les qualités du projet, c'est évidemment que c'est un habitat qui est flexible et qui a été pensé pour pouvoir évoluer. C'est donc une capacité de répondre à une attente dans le temps présent, mais aussi dans le futur. Et c'est pour ça que je dis qu'espace et temps sont très liés. Et que c'est un habitat participatif dans le sens où, voilà, avec les ateliers qui ont vraiment permis aux familles de se projeter. Par contre, les points de vigilance, où en France on est beaucoup peut-être moins porté sur l'autoconstruction et qu'on a des règles beaucoup plus. Enfin voilà, que la réglementation est plus compliquée. Donc je pense qu'ici, ça voudrait dire que ça nécessite surtout des réglementations différentes par rapport au permis de construire. C'est-à-dire que si on compte faire évoluer le projet deux ans plus tard, ça veut dire un modificatif, ça veut dire... Enfin, donc c'est pas du tout... c'est-à-dire que c'est dans la réglementation, il y a quelque chose à penser. Et peut-être si... Enfin, je nécessite un savoir-faire dans l'autoconstruction. C'est en effet pas donné à tout le monde. Mais bon, après, on peut aussi faire appel à des entreprises. Ça, c'est pas vraiment un problème majeur. Et on m'a demandé aussi de réfléchir à d'autres exemples. Rapidement, on parlait d'architecture incrémentale, mais Lucien et Simon Kroll sont quand même des grands adeptes et un peu les fondateurs de cette notion et de cette architecture. Donc si vous voulez voir d'autres exemples, je pense que c'est vers eux aussi qu'il faut se tourner. À UA, ils ont réalisé, parce que c'est quand même pas nouveau, tout ce dont on parle, l'habitat flexible, etc. On n'en fait absolument pas, enfin on en fait très peu aujourd'hui parce que ça a un coût, mais dans les années 70, évidemment, ça existait déjà. Et à UA a fait une opération assez exemplaire dans ce type-là, à l'intérieur, c'est-à-dire que les cloisons sont vissées et qu'on peut carrément les déplacer. Donc il y a plein d'exemples de ce type. Et il y a aussi, je vous invite aussi à aller voir pour l'évolutivité des constructions aussi dont parlait Benjamin et tous les exemples, parce que ça aussi, ce n'est pas nouveau. Mais le projet Bazette qui a été financé par l'ADEME, et c'est un très bon dossier qui justement est très, très pratique. Voilà, merci.
Merci beaucoup Anne Durand pour cet exposé. Alors évidemment la transposabilité n'est pas forcément évidente sous nos latitudes en tout cas, mais en même temps ça répond quand même à des urgences qui commencent aussi à devenir les nôtres. Et je crois que l'un d'entre vous ce matin évoquait très rapidement la question de l'accueil des réfugiés. Peut-être demain ces solutions-là pourraient trouver un écho particulier en direction de personnes ou de populations en précarité avec une nécessité d'accueil rapide. Je ne sais pas si ça a été envisagé, parce que le système constructif qui est présenté dans cette démarche au Chili, j'imagine qu'il est très rapide à mettre en œuvre. Ça va très très vite.
Vous avez... je me souviens plus des délais, mais ça a été en quelques mois, ça a été monté.
C'est ça. Voilà.
Pense.
Donc on a une capacité à répondre très très rapidement à un hébergement d'urgence
et
durable.
Ça parle pas de. Après, est-ce que ça peut être construit très rapidement, donc on peut parler d'urgence, mais c'est pas non plus temporaire.
C'est pas éphémère.
L'idée, c'est que ce soit évolutif. Pérenne. Donc, après, c'est la question en effet, comment on loge les migrants et ou les réfugiés et ou les populations les plus démunies. Est-ce que c'est un système comme ça qui évolue ou au contraire, déjà, la question pour eux, ça c'est vraiment un autre débat, mais c'est plutôt déjà où est-ce que, comment on les loge. Enfin, je comprends votre remarque, mais est-ce que c'est même dans les... Il y a une telle demande que je ne sais même pas si c'est dans une réponse qui s'adapte type. Ou c'est au contraire déjà une bonne densité. Enfin, oui. Question.
C'est une question. Avez-vous justement des questions, vous aussi, ou des réactions, des commentaires par rapport à cette initiative chilienne qui vient de nous être présentée ? Benjamin Pradel, je vous voyais attentif, comme toujours d'ailleurs depuis le début de cet après-midi, à tout ce qui est dit. Vous aviez peut-être envie de réagir ou de mettre en perspective, au regard des propres pratiques qui sont les vôtres, cet exemple venu de loin.
Non, peut-être des questions sur... en fait, c'est bizarre, mais là, ça m'évoquait plutôt des questions techniques, en fait. Sur la qualité des matériaux employés pour l'extension de ces bâtiments, sur le savoir-faire de ces hommes et ces femmes qui auto-construisent et finalement de quelle manière, est-ce qu'il y a un accompagnement justement, ce qui manquerait pour une transposition de la pratique. Et puis le retour sur la question des réfugiés, c'est vrai que dans le mutable, adaptable, l'incrémental, ben, quand même on a une ville qui s'est construite au nord de la France qui est quand même peut-être dans tout ce qui est l'extension des villes, bidonvilles, etc. Le premier est peut-être des habitats adaptables, mutables, éphémères et compagnie. Malheureusement, c'est quand même c'est un peu la pauvreté qui l'amène, quoi. Donc ça pose des questions, en tout cas. Enfin, je sais pas si c'est pas la pauvreté, mais en tout cas, voilà, très clairement... Le camp de réfugiés de Calais, c'est une des premières villes réversibles ou adaptables, entre guillemets. Enfin, bon, l'autoconstruction.
Et là, on retrouve une question de temporalité, puisque c'était l'urgence qui avait...
Non, mais voilà, il y a un vrai parallèle et ça pose vraiment de vraies questions.
Oui. Voilà, ça remet... Il y a un vrai parallèle parce que c'est justement des situations et des quartiers. Enfin, c'est pas forcément un quartier pauvre, là, c'était des quartiers très pauvres, mais en fait, c'est considéré. Ce quartier est considéré comme
middle class déjà.
Moyenne classe moyenne, ouais. Après, l'autoconstruction, c'est vraiment autre chose en Amérique latine. Mais encore une fois, je dis qu'ici, ça pourrait être des entreprises qui soient. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de grands fournisseurs de matériaux qui maintenant donnent des cours des formations. Aux particuliers, sans citer, mais il y a le Roi Merlin, Bricorama, etc., qui font maintenant, ça fait quelques années...
Court placo, super.
Court placo, peut-être. Mais, non, mais l'autoconstruction, c'est un phénomène complètement généralisé en Amérique latine, justement, face à cette problématique qui a... Ici, on a une problématique du logement, mais là-bas, c'est le logement social, c'est comme ici... Tout le monde n'y a pas accès et dans des proportions beaucoup plus grandes. Du coup, c'est des petits collectifs qui se mettent en place avec. Il y a des gens qui savent poser le carrelage, d'autres qui savent monter le bois. Et donc, c'est à une autre échelle.
C'est les castors des années 50, quoi.
Ouais, qu'on a connu aussi. C'est une très, très grosse échelle. Ouais.
Et j'en profite pour dire qu'il y a une thèse sur ce sujet qui a été soutenue à 2 ans, je crois, par Laure Criqui. Sur justement le développement et l'accompagnement des réseaux d'eau et de collecte des déchets dans les quartiers autoconstruits d'Amérique du Sud, voilà, qui est sur la question de l'adduction d'eau aussi et de l'assainissement, voilà, temporaire.
Emeline Dumoulin, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors sans aller jusqu'à l'autoconstruction, alors cette fois c'est mon coup de gueule. C'est vrai que je trouve que pour travailler avec beaucoup de promoteurs, beaucoup d'opérateurs immobiliers différents sur cette question de l'évolutivité des logements. Même quand on a des élus qui souhaiteraient qu'il y ait des expérimentations dans le cadre de nos projets urbains, qu'on a certainement des architectes qui ont plein d'idées et plein de talents, on a beaucoup de mal finalement, même quand on fait signer une charte à tous les promoteurs du quartier pour les inciter à être un petit peu innovants, à tenter des choses dans les produits qu'ils vont nous présenter. force est de constater que très très peu quand même exploitent ce champ qui est de toute façon hyper actuel. On parle de logement d'urgence, de comment loger les plus pauvres, mais aussi tout simplement l'adaptation du logement à l'évolution de la cellule familiale, les familles qui grandissent, qui rétrécissent, etc. Et nous, bon, les bassins info étant l'exemple que je connais le mieux, mais on a finalement un promoteur qui a vraiment développé une initiative là-dessus, qu'il a d'ailleurs reproduite, je crois, en France. Enfin, c'est un type de produit... j'y ai pensé parce que c'est un peu la même chose. Il y a un peu des dents creuses dans le bâtiment. Et puis, dès le permis de construire, ils ont prévu qu'un jour, ça pourrait être comblé par des boîtes, par des pièces en plus. Et c'est le seul exemple, en fait, qu'on ait. Et je trouve ça quand même très dommage qu'on ne soit pas capable de faire mieux.
Alors, Elona Christo, vous souhaitiez réagir. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes la chef du projet du pôle Molière, hein, c'est ça, au Mureau.
Pour la ville des Mureaux.
Dont vous allez parler dans quelques instants. Mais vous souhaitiez, avant cela, intervenir sur ce qui vient
d'être
dit.
On parlait justement des logements, mais je toucherai un mot sur les équipements. Aujourd'hui, au niveau des écoles, la commande politique qu'on a, nous, c'est de faire une architecture éphémère, modulaire, facile à déplacer, parce qu'on ne le sait pas, la démographie commencera d'ici 30 ans. Après, je pense que c'est lié aussi au budget.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Merci.
C'est lié aussi au budget et c'est lié aussi à la vitesse de la construction et de la mise en œuvre. Mais c'est une question qui est une question à jour et que nous venons de lancer un concours de consultation de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un équipement que nous avons estimé environ 11 millions d'euros de travaux, justement à la base de cette architecture-là. Donc, pour le moment, on est à la phase 1 de la consultation. Je vous dirai par la suite ce qui se passera. Donc, voilà,
vous
c'est une question qui est vraiment, vraiment à jour, en fait, qui touche beaucoup les équipements, surtout.
Alors, avant de vous passer la parole pour que vous nous présentiez effectivement ce projet du pôle Molière, peut-être une réaction pour terminer sur l'exemple qui vient de nous être présenté au Chili avec vous, Adrien Jacquet. J'imagine que vous êtes sensible à toutes ces initiatives-là et que ça rejoint peut-être certaines des préconisations qui sont développées par le Bureau Cosmique.
Oui, tout à fait. Mais après, moi, je pense que c'est une volonté aussi, toujours une volonté politique aussi d'aller faire ce genre de projet et de pouvoir le permettre. Et en fait, du coup, j'ai deux petits exemples en tête qui sont complètement différents, qui sont assez drôles. Il y a un projet, je crois que c'est à Nîmes, de Nemosus, qui est de Jean Nouvel, qui était dans un projet des années 80 ou 90, donc Jean Nouvel que beaucoup connaissent, enfin un architecte star français. Et du coup, en termes d'appropriation, c'était quasiment le degré zéro de l'appropriation possible pour le logement social, parce qu'en gros, il avait même laissé la trace du cordeau, du cordex du maçon sur tous les murs, et les habitants n'avaient pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit ni de mettre du papier peint sur le béton brut, ni d'effacer les traces qui étaient voulues par l'architecte sur le bâtiment. C'était un projet social qui ne l'est plus, d'ailleurs, qui est resté un logement social pendant quelques années, mais ensuite, c'est devenu privé. Donc ça, pour moi, c'est à mettre en opposition avec le genre de projet du Chili. Et aussi, par exemple, on parlait de l'hôtel Pasteur, mais ça fait penser à Sophie Ricard, donc qui
oui, je pensais à elle, à ce qu'elle a fait avec Patrick Bouchain dans le nord de la France.
L'agence Construire à Boulogne-sur-Mer, où du coup, c'est là la volonté, c'est plutôt, alors, peut-être aussi par manque de moyens, mais c'est pas que ça. Je pense que c'est une volonté forte politique où ils sont arrivés dans un quartier pavillonnaire, donc mais de HLM en fait, donc quasiment sans aucun moyen, donc ils sont passés par l'autoconstruction. Et mais quand vous parlez même de savoir-faire en construction, je pense qu'on trouve des moyens pour accompagner justement, et qu'il y a des professionnels maintenant qui savent faire ça, qui savent aider les gens même à dessiner, même à concevoir, à construire. Donc il y a pour moi il y a les deux en fait, il existe les deux, et il y a deux manières de voir la ville et même l'habitat encore maintenant, même 20 ans après, il y a encore des...
Merci pour ce témoignage. Effectivement, Sophie Ricard, que vous rencontrerez en fin d'après-midi, pourra peut-être aussi parler de cette expérience-là. Je ne voudrais frustrer personne. Est-ce qu'il n'y a pas de demande de prise de parole? Si.
Juste une chose par rapport à la difficulté de ces habitats précaires. On a trois difficultés majeures. D'abord, c'est que pour une fois, les promoteurs et bon nombre d'élus sont calés dans les mêmes starting blocks, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans la façon dont le logement est conçu aujourd'hui, notamment dans l'hyper-marchandisation du logement. on fait du logement pour, on fait du PLA, on fait du PLI, on fait du plus, on fait du PC, enfin voilà. On a des trucs très normés qui s'adressent à des catégorisations, des saucissonnages de population, et la population n'a pas intérêt à sortir du saucissonnage dans lequel elle a été faite, ni quand elle est chômeur, ni quand elle cherche à acheter un logement. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on a un vrai problème de financement. C'est-à-dire que, je prends un exemple très concret sur Cristino Garcia à la Plaine-Saint-Denis. Donc, alors, le conseil régional va mettre, dans le tour de table, il va mettre un petit peu parce que c'est pour des logements jeunes. D'accord. Bon. Ensuite, le conseil départemental va accepter de cofinancer des logements pour les seniors. Et puis, on va arriver à attraper avec la CAF des logements. Ah, ça, c'est pour ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC, mais pas en dessous. Jusqu'à une fois et demie, mais pas au-dessus. Voilà. Et puis après, on va prendre pour les couches moyennes. Et avec tout ce bazar-là, vous arrivez à bâtir à peu près un programme de logement. Quand il y en a 3200 à construire par an, vous en avez 300. C'est déjà pas mal. Bon. Et quand après, vous arrivez avec vos grandes idées, parfaitement justifiées, hein, je suis d'accord, et qu'on vous dit, ah là là, attention, parce qu'une famille, ça évolue, ce qui est quand même la moindre des intelligences, de considérer qu'une famille, des fois,
ça... Généralement, c'est comme ça que ça se termine. Ouais.
Et que peut-être, ils ne sont pas obligés de déménager. Mais non. Et là, ça ne va plus du tout, parce que comprenez, à chaque fois qu'on revend et qu'on rachète, à chaque fois d'abord, il y a des royalties qui tombent, que ce soit chez les notaires ou dans les caisses des départements. Il y a de la fiscalité là-dessus. Et en plus, ça fout le bazar pour la conception globale du logement. C'est-à-dire que le terme de parcours de vie, de parcours résidentiel, c'est une tartufferie d'élus. Il n'y a que des élus un peu nasbrock comme nous qui osons penser parcours résidentiel. Parce qu'un parcours résidentiel, très concrètement aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça n'existe y compris pas légalement. Je rappelle un préfet de Seine-Saint-Denis qui s'appelait Galli, qui nous a expliqué que du logement modulaire en autoconstruction pour les Roms, c'était bien gentil votre idée, monsieur Vassallo, mais ce n'est pas prévu dans votre PLU. Donc allez vous faire voir. Donc ça, je trouve que c'est très symptomatique. Je le dis avec la modération dont je suis coutumier. Donc ça,
c'était votre coup de gueule, hein, c'est la série, donc c'est le vôtre. Là.
Sauf que si on veut transformer les choses, c'est-à-dire qu'il faut prendre toute la mesure de ce qu'on a à changer dans les pratiques professionnelles et dans les modes de financement du logement social, qui est un vrai problème aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre interpellation vigoureuse mais nécessaire. C'est bien. S'il n'y a pas d'autres questions, non, il n'y en a pas. Non. Je vous propose que l'on prenne la direction des mureaux. Et on va voir avec vous, Elona Christo, le pôle Molière. Vous allez nous expliquer. Voilà, les images apparaissent. C'est un équipement polyvalent aux horaires étendus. Tout est dit ou presque. Expliquez-nous.
Alors, le pôle Molière en muraux, je vous ai laissé la liste des acteurs qui ont participé pour la conception et construction de cet équipement, parce qu'on voit rarement des architectes au fait apparaître. On parle beaucoup des logements, d'équipements, de tout, mais on ne parle pas beaucoup des architectes. Donc, ça a été conçu par l'équipe ACLA Architectes avec toute son équipe de la maîtrise d'œuvre. Nous étions assistés par la SEM 92 en mandataire. Ça a été piloté donc par la direction du bâtiment de la ville de Mureaux et porté politiquement donc par le maire de Mureaux et l'adjoint à l'environnement.
Tout ça est page 96 du guide pratique. Voilà.
Donc, je dis juste deux mots sur l'environnement. Donc, c'est un équipement qui a été certifié HQE par Certivea et labellisé en BEPOS, mais que pour les écoles. Nous avions souhaité au départ que l'ensemble de l'équipement soit labellisé. On n'a pas réussi à la fin. L'idée principale de construction de cet équipement. Donc, l'idée vient du maire. Je vous ai mis en rouge les points, les équipements qui étaient... je ne vois pas bien, en fait.
Alors, on a le conservatoire, le pôle Molière, la médiathèque et l'hôtel de ville.
Là, ça va mieux. Donc, l'hôtel de ville a été réhabilité.
Tout en haut.
Oui, tout en haut. Donc, la Seine est au nord. L'hôtel de ville, en plein centre-ville, a été réhabilité et inauguré en 2005. Après, il y a eu la médiathèque... Pareil, une extension est inaugurée en 2009. Le conservatoire, c'est l'ancien château des Mureaux. C'est un petit château où il y a toutes les activités, plutôt musique, où il y avait la danse aussi et tout ce qui était art manuel. Et donc, le presbytère, c'est un ancien bâtiment qui date du 18e. C'est une ancienne ferme. Et le pôle Léo Lagrange. Donc la volonté politique était de construire plusieurs pôles dans l'ensemble de la ville pour créer un réseau au fait de ces équipements à thème. Donc l'hôtel de ville, c'est le pôle administratif. La médiathèque, aujourd'hui, il y a le centre de la danse qui est au-dessus, et la médiathèque, donc le bâtiment de la médiathèque, et le conservatoire, donc, qui a perdu sa vocation en majorité d'art manuel. Il reste encore un peu d'art de peinture, peinture au niveau du conservatoire. En cours, donc, c'est le presbytère qui deviendra le centre de la fabrication artistique, qui occupera toutes les activités du conservatoire. Et le pôle Molière qui est venu s'installer en plein centre des quartiers, des Mureaux. Donc c'est le quartier de la Vigne Blanche, pour ceux qui ont entendu parler des Mureaux. Pas souvent du bien. Donc la Vigne Blanche, c'est un des quartiers, la Vigne Blanche et les musiciens, c'est les quartiers du Sud. Qu'en 2009,
les
quand
cités
je suis
sensibles,
arrivée,
hein, voilà.
Oui, très, très sensibles. Donc le choix politique était justement de venir installer le pôle Molière en plein quartier. Ça a été très compliqué en tant que choix politique parce que la plupart des élus voulaient que le pôle Molière soit installé en centre-ville pour des intérêts politiques et autres.
Pour le prestige qui découlait aussi de cette implantation,
aussi,
peut-être.
Parce qu'il y avait les élections aussi qui venaient derrière.
Il ne faut jamais perdre de vue cette temporalité-là non plus.
Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, il est là où il est. Et je pense que le résultat est que c'était un très bon choix de l'installer en plein quartier, qui ont quand même beaucoup changé de 2009. Donc les quartiers sud du Mureau font partie du programme de rénovation urbaine. On en a parlé un peu ce matin, qui est une opération d'intérêt national. Et donc, le pôle Molière, c'était un équipement qui a coûté un peu plus de 17 millions d'euros en travaux et 23 millions d'euros en opération.
Aujourd'hui, il est opérationnel. Il a aujourd'hui, été livré en 2014,
donc,
c'est ça
La commission de sécurité s'est passée en juillet 2014. Donc, la crèche a été ouverte en août 2014 et les écoles en septembre 2014.
Donc, on a deux ans de recul.
Ça fait deux ans de recul, oui.
Et ça fonctionne bien ?
Ça fonctionne bien. Oui, la première année était très compliquée. C'était compliqué parce que c'est l'équipe d'éducation nationale aussi qui est là-dedans. Je vous parlerai des activités du pôle Molière, mais ça fonctionne plutôt bien, oui. Si, il y a un bon retour. Donc, voilà. Par rapport aux structures, donc, le pôle Molière, je disais qu'il y a une école maternelle, donc il y a des structures de l'éducation nationale. Qui comprennent une école maternelle de 6 classes, une école élémentaire de 7 classes et le RASED, qui est juste. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça.
Le RASED, qu'est-ce que c'est ?
C'est pour les enfants en difficulté,
ah
en
oui,
fait.
D'accord.
Donc il y a deux professeurs, un psychologue. Donc ici, il y a deux classes, au fait, de RASED avec un psychologue. Ici, il y a l'école maternelle. Cette aile-là, c'est le centre de loisirs. Et puis ici, c'est l'école élémentaire.
Ouais, c'est une grande emprise foncière,
voilà.
Finalement. Hein.
Donc, ça fait un hectare environ, ouais. la parcelle. Et on est à 4500 surface utile, mètres carrés de surface utile. Et donc, après, nous avons le restaurant qui fait toute cette partie-là. Avec un petit bâti au pied du parvis. Je vais vous montrer une autre photo après. Au pied du parvis, qui reçoit donc un café. Au début, c'était prévu en tant que café des parents. Donc justement pour que les parents, quand ils arrivent, ils puissent attendre les enfants ou ils accompagnent les enfants et ils s'installent dans ce café-là. Et puis ici, donc il y a trois plots. Dans le premier, nous trouvons donc l'accueil qui est en plein pied avec le parvis. Donc, on est quand même dans un terrain qui est très en pente. En fait, on a environ 8 mètres de pente du bas de la rue Molière qui est ici, à cette rue-là qui est au bord du parc de Bégeville. Donc, on est souvent à un niveau de 1,60 m, à des demi-niveaux, en fait. Donc, du coup, l'architecte a réussi quand même à s'installer en terrasse pour pouvoir avoir la vue dégagée du haut du terrain jusqu'à la RD qui est qui est de ce côté-là au fait de la ville. Donc ici, nous avons une grande salle polyvalente. Ici, en face de la salle polyvalente, il y a la ludothèque. De l'autre côté, c'est les bureaux. Et en dessus, c'est une salle multimédia. Et dans le troisième plot, il y a la salle de motricité. Et de l'autre côté, c'est la salle des sports.
Si on reste justement sur l'intitulé que vous avez donné à votre présentation, équipement polyvalent, polyvalent, on vient de le voir, il y a de nombreuses structures qui le composent, mais aux horaires étendus. C'est oui. du 7-11, comme on dit. Alors, c'est du 7h à 23h, c'est ça, c'est la caractéristique.
Le premier gardien, il arrive sur place à 7h moins le quart. Il y a trois gardiennages, au fait. Il y a trois gardiens, donc un le matin, l'autre l'après-midi, et le troisième, c'est un agent de sécurité, de 19h jusqu'à 23h. Le pôle est ouvert tous les jours de la semaine, à part dimanche. Donc dimanche, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'ouvrir. Ça viendra. Le restaurant, la volonté, au fait, qui est arrivée un peu tard, parce qu'on a des commandes politiques qui nous arrivent aussi en phase APD, nous. On était au départ en livraison froide. Et puis, d'un coup, en phase APD, ils nous ont dit non, il faut passer en cuisine préparation sur place. Donc pour un architecte, ce n'est pas du tout la même chose.
Ah oui, parce
que déjà,
commande,
les surfaces,
hein,
c'est pas la même. Et puis, on ne parle pas de budget, mais là, on va que dans les surfaces. Donc, du coup, il fallait faire une cuisine préparation sur place et un restaurant qui ne servait surtout pas que pour la restauration scolaire, donc pas que cantine, mais qui deviendrait salle de spectacle, salle de fête, salle de conférence, salle dansante et aussi des concerts.
Et ça change un peu la programmation.
Et aussi un restaurant pour la population et pour les gens aussi autour des muraux. Donc à ce jour, retour d'expérience, nous n'avons pas réussi à avoir un restaurant pour la population. Mais ce restaurant-là, cette salle de restaurant, qui est une très très belle salle et qui fait 260 mètres carrés, sert pour des conférences, pour des spectacles, pour des concerts de fin d'année. Bien sûr, tous les espaces sont utilisés tout d'abord pour les élèves qui sont sur place, et puis après...
C'est ça qui explique l'amplitude horaire,
exactement,
jusqu'à 23h potentiellement.
Alors,
le soir.
Il y a quelque chose de très intéressant, en fait, quand on a réussi à installer. Ici, ça ne se voit pas dans cette image. Là, il y a des portails avec une grille. Donc, on est parti sur des grilles qui sont très basses, au fait. C'est juste pour limiter l'espace, mais pas pour protéger, même si on est dans des quartiers assez difficiles aux muraux. Donc, dans ces grilles-là, il y a deux portillons qui sont fermés à clé. Et chaque plot que vous voyez ici a des portes qui donnent de côté extérieur du pôle et de côté intérieur.
Oui, donc ça peut fonctionner en totale autonomie par rapport au reste.
Si je reviens ici, quand je vous disais que là, c'est la salle polyvalente est utilisée tout le temps quand il n'y a pas de cours de théâtre, quand il n'y a pas de... Donc nous, on peut y aller pour une réunion, pour une conférence, que ce soit le personnel mairie, que ce soit les associations, que ce soit d'autres personnes qui ont des conventions annuelles. Et qu'une fois qu'on ferme les deux portes qui sont là, on ferme la porte qui tombe à l'intérieur du pôle. En pleine journée, quand les enfants sont encore dans les écoles, ces espaces peuvent être utilisés sans avoir ce mélange de flux. Et là, c'était une vraie réussite.
Et ça fonctionne, ça.
Et ça fonctionne très bien. Après, il faut avoir une direction de cet établissement qui gère l'ensemble, qui veut dire que c'est cette personne qui garde le planning, le règlement. Il y a un règlement intérieur de l'équipement qui est mis à jour tous les ans et qui est distribué au directeur d'école. Quelque chose de particulier aussi au pôle Molière. Dans les écoles, il n'y a pas de salle de maître. Il n'y a que ce bureau de direction, et c'est tout, et les salles de classe. Hein. Mais la salle des maîtres est à l'extérieur de l'école, donc elle se trouve là. Et elle est commune pour les deux écoles. Donc ça a été très difficile au départ, parce que l'éducation nationale est encore dans les habitudes traditionnelles. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, je suis dans mon école, et j'ai ma salle de maître à l'intérieur des murs de mon école, ben, c'est plus la même chose du tout. Donc la salle des maîtres est en dehors et à partager aussi avec la directrice de l'école élémentaire. Au début, c'était j'y vais pas, mais maintenant tout le monde y va.
Donc, ça modifie aussi,
donc,
les,
ça fonctionne aussi
les habitudes.
Et puis la salle de motricité. La salle de motricité étant ici, ça veut dire qu'elle est à l'extérieur de l'école maternelle. Là aussi, c'était un problème parce que les instituts ne voulaient pas que la salle de motricité soit à l'extérieur parce qu'il fallait habiller les enfants, etc.
Faire le parcours, c'est déjà de la motricité, d'une certaine manière.
Exactement. Et les architectes ont dit non, pour nous, c'est un lieu d'éducation et que déjà, l'installation en pente de l'ensemble de l'équipement est faite pour qu'on apprend qu'on grandit de la crèche à la maternelle à l'élémentaire, mais qu'on apprend aussi qu'on vit, on apprend à s'habiller, on apprend à marcher, on apprend à faire des choses et puis à avoir des copains qui viennent d'ailleurs, mais pas que... Et voilà, donc ça aussi, ça fonctionne. Donc voilà, ce que je disais, à part le restaurant qu'on n'a pas réussi vraiment de faire un lieu de restauration pour l'ensemble de la ville, parce que c'était très compliqué juridiquement surtout, et il fallait faire une DSP, mais nous, on n'y a pas pris le temps à faire ça, parce qu'on était un peu en retard sur le projet d'établissement. Donc, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui suivent ce genre d'équipement...
J'allais vous demander, est-ce que c'est reproductible, cette affaire-là ?
Oui. Donc, moi, je suis en cours du prochain pôle éducatif, lequel je suis en phase consultation d'architecte aujourd'hui, mais que le projet d'établissement a commencé.
Et le conseil que vous vouliez donner, du coup, alors, c'est ?
C'est de commencer un projet d'établissement en même temps que les études d'architecture.
Voilà.
Parce que c'est indispensable. C'est indispensable pour faire les espaces qui se transforment justement avec des temps très, très courts. Il faut avoir un mobilier qui s'adapte. Il faut avoir des rangements qui sont d'une taille importante pour qu'on vient, on mobilise pas tout un service d'événementiel pour qu'ils viennent changer la configuration de la salle. Et puis après, dans nos deux salles, donc, que ce soit la salle polyvalente du plot 1, que ce soit celle du restaurant, il y a un écran qui est installé, il y a un vidéoprojecteur, enfin, il y a tout l'équipement scénique qui va avec. Après, c'est vrai qu'on a eu le budget, on a eu beaucoup de subventions sur cet équipement.
Oui, parce que ça a un coût quand même, hein, cette affaire-là. Oui,
ça ne sera pas la même chose sur l'équipement prochain, donc je ne sais pas comment on va faire, mais voilà, les budgets sont quand même très serrés aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Il reste certainement plein de choses sans dire. Mais...
Emeline Dumoulin avait une question à vous poser ou une remarque à faire. Peut-être un coup de cœur après le coup de gueule de tout à l'heure.
J'ai une question à vous poser. Je ne sais pas quel service vous travaillez, vous, à la mairie des Mureaux, mais votre projet, il est très transversal et il mutualise beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de chacun, nous, c'est ce qu'on
de précaré,
voit,
hein,
chacun s'en précaré entre les services qui s'occupent de l'éducation, ceux qui s'occupent des salles polyvalentes, de la culture, etc.
Alors, donc moi, j'ai le chapeau aussi du chef de projet, qui n'a pas d'hiérarchie, forcément. Un chef de projet, ça veut dire qu'on pilote un projet et puis tout le monde autour de la table. Ça a été compliqué avec l'éducation nationale parce que je dis que ça manquait ce projet d'établissement et ils n'étaient pas invités dès le départ dans la conception du projet. Chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ils sont là, ils sont à la table. On leur dit que ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Pour des questions budgétaires ou pour d'autres questions. Parce que monsieur le maire ou nos politiques ont décidé de faire une école pareille qui ressemblerait à ça. Par contre, par rapport aux collègues, il faut faire un travail transversal et faire sentir à tout le monde que c'est le projet de tout le monde, en fait. Parce que si on y va toute seule, non, ça ne marche pas.
Merci. Est-ce que, Benjamin Pradel, vous avez un commentaire particulier à faire ? Non, je me tourne vers vous, vous voyez, comme les sociologues sont toujours sollicités dans ce genre d'exercice.
Non, mais alors, c'est bien connu. Votre dernière phrase, moi, à la fois me réjouit et en même temps me questionne, puisqu'on est quand même en 2016, bientôt 2017, faire le projet d'établissement en même temps que le projet d'architecture. Eh bien, encore heureux. Enfin, oui. De mettre tout le monde autour de la table, intégrer l'éducation nationale dès les premiers pas politiques ou techniques du projet. C'est quand même, on est quand même dans ce qui est intéressant quand on parle du temps et de ces avatars de mutualisation, polyvalence, etc. C'est quand même la transversalité et c'est sûr que on est aujourd'hui dans des configurations de collectivité, de mode, en mode projet, etc., où chacun est quand même toujours dans son silo. Et donc il y avait ça. Parler de temps, c'est parler aussi de transversalité et donc de faire un peu éclater les silos dans lesquels chacun, chaque personne peut être. Et le deuxième point, c'est penser le temps, et ça on en avait beaucoup parlé en séminaire, c'est aussi penser les usages. Et penser les usages en amont du projet, c'est sûr qu'il y a une profession aussi qui est beaucoup représentée ici, etc., qui doit peut-être aussi revoir certains modes de faire, ce sont les architectes.
J'en suis une, mais de l'autre
mais
côté...
Mais je dis, je ne mets pas tout le monde à la même côté. Je dis juste... Mais non, voilà, enfin, penser les usages en même temps que le projet, ça me paraît d'une... Ça,
je le dis haut et fort parce que ça m'a beaucoup fatiguée. Surtout à la fin du projet quand on s'est retrouvé, parce que souvent pendant le pilotage d'un projet, quand on commence à, quand on a des questions budgétaires surtout, ben on commence à enlever des missions à droite et à gauche, et ce qui a été fait pour ce projet, ben on a sucré la mission de l'architecte pour le mobilier. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule à la fin, sans projet d'établissement, et avec la directrice qui a été embauchée quand même, heureusement, 6 mois avant l'ouverture de l'équipement. Et je pense que la direction doit être sur place au moins 1 année avant que l'équipement soit ouvert, parce qu'on y gagne du temps
le
et de l'argent.
Le fonctionnement en blanc, c'est important.
On y gagne du temps et de l'argent, et je suis persuadée, parce que c'est du vécu, au fait... Et je ne ferai, au moins tant que je pourrai, je ne ferai pas les mêmes erreurs que c'était un cas d'école. C'est plutôt bien, bien réussi, mais je pense que le prochain sera encore mieux.
Et je rebondirai aussi, puisqu'on parle beaucoup de maîtrise d'usage aujourd'hui, que les maîtrises d'usage, ça, c'est les professionnels qui vont être, qui vont faire leur métier dans ces bâtiments. Ce sont les services techniques de la ville qui vont devoir les gérer, les rendre propres, les gardienner, etc. Et ce sont les usagers dans leur diversité, que ce soit qu'on parte des enfants aux parents, enfin, du praticien, celui qui va y vivre. Mais voilà, pour moi, la question du temps, c'est aussi la question de la maîtrise d'usage de l'ensemble de ces... Et ce sont les services de la ville qui vont être en responsabilité sur ce bâti, quoi.
Merci Benjamin Pradel et merci aussi Elona Christo pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions de
c'est
votre
juste
part...
Juste une petite précision ici. Excusez-moi. Bah, oui. Je voulais insister sur ce point qui me paraît primordial. Si on veut faire de l'aménagement durable, temporaire, hein, santé, c'est le point crucial. Hein. C'est que tous les acteurs... soit là en amont du projet pour la programmation,
ça s'appelle anticiper.
C'est de l'optimisation, je dirais même plus, c'est plus que de l'anticipation, c'est de l'optimisation du projet. Si on n'a pas les décideurs, si on n'a pas l'équipe projet, si on n'a pas les gestionnaires et les usagers, on passe à côté de beaucoup de choses.
C'est important de le rappeler, vous avez raison. Quand vous disiez, Benjamin, penser les usages, je me suis interrogé sur la manière dont vous l'orthographiez, avec un E ou avec un A. Mais ça, je ne sais pas. Pensez. Madame, vous demandiez la parole.
Oui, je travaille à la mairie de Paris sur la question genre et espace public. Donc, je suis intéressée à venir m'intéresser au temps et l'aménagement de l'espace public, puisque on a travaillé là-dessus depuis un moment déjà, et qu'il y a des croisements très serrés entre temps et genre. Et du coup, ça m'intéresse. J'ai trouvé tout à fait ce que vous dites sur la transversalité, le fait de faire éclater les silos, le fait de sortir de chacun sa ligne, de mêler architectes, urbanistes, sociologues, aménageurs, mais aussi animateurs, régulateurs, médiateurs des espaces publics. Ça recoupe beaucoup le travail qu'on a fait sur cette question de genre et espace public. Et je me dis tout à coup qu'il y a sûrement des choses qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Peut-être c'était en creux. Bon. En tout cas, je crois que si on voulait encore aller plus loin, ce qui apparaît très fort dans notre travail sur le genre, c'est la question des usages, donc, de la maîtrise d'usage. Ce que vous avez dit tout à l'heure entre les grands récits et les micro-récits, le fait que finalement les experts de l'espace public, les experts et les expertes, ce sont les femmes et les hommes, les habitants, les personnes. Et que ce soit le jour, la nuit, famille. Il y a des tas de choses auxquelles qu'on peut complètement zapper, passer à côté, parce qu'on n'aura pas suffisamment demandé aux personnes qui sont les usagers, les usagères au final du projet, ce qu'ils en pensent, qu'elles en pensent, comment ils voient les choses. Et donc, que ce soit pour la circulation, pour l'occupation de l'espace, pour le fait de s'y sentir en sécurité, ça c'est un point important qui apparaît quand on parle des questions de genre, hein, homme-femme, ou de la participation, ou de la visibilité. Je crois que là aussi, on a intérêt à poser la question très tôt, en amont dans le projet, quoi, dans, de la même manière que vous le faites, hein, sur ces projets qu'on a entendus aujourd'hui. Et donc, moi, je repars avec des choses intéressantes sur la culture générale, sur le temps. Bon, en même temps, j'avais déjà des infos, puisque je connais le bureau des temps depuis longtemps, ici. Et je me dis, et demain, alors, est-ce qu'on croise temps et genre ?
Eh bien, voilà un sujet pour un prochain colloque. Et je suis sûr que les organisateurs vont noter ça précieusement pour nourrir la suite de leurs réflexions.